Merci Solène, cette journée de la radio est placée sous le signe de la prise de parole et nous ouvrons la deuxième partie de la matinale avec l'interview d'Anna de l'association féministe des salopettes.
Alors tout de suite, rendez-vous avec les salopettes et c'est Anna qui a été diligentée pour nous parler. Bonjour Anna.
Bonjour.
Alors dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement l'association ?
Oui, bien sûr. Alors, donc à la base, c'est une association qui s'est formée en 2013 sous le nom des Simones. On a eu un changement de nom en 2016 pour devenir les Salopettes, mais globalement, ça reste la même association. Donc, on est surtout dans la continuité avec cette association, notamment au niveau des idées et des objectifs, mais aussi dans l'élargissement, l'ouverture. On a vraiment une prise d'ampleur du nombre d'adhérents, notamment.
D'accord.
Après, au niveau des objectifs donc, qui restent les mêmes, je vais vous citer une partie de la charte des salopettes qu'on peut trouver sur notre blog. Donc, le but est vraiment de créer des espaces dans lesquels chacun et chacune puisse intervenir sans se sentir mis ou mise en danger. Et créer ces espaces de sécurité nécessite que chaque adhérent ou adhérente reconnaisse l'existence de différentes oppressions dans la société et s'efforce de ne pas les reproduire au sein de l'association. Donc le but, c'est vraiment ce féminisme appliqué en milieu universitaire et notamment au niveau de la sensibilisation des étudiants et des enseignants.
Et concrètement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du fonctionnement interne de l'association avec le bureau, le système de vote, etc.
Oui, alors nous comptons actuellement 68 membres. Nous sommes 9 au bureau qui fonctionnent sur un système collégial, c'est-à-dire que les décisions sont prises à plusieurs, même si chacun a des petits rôles, plus ou moins. On prend toujours les décisions avec l'avis des autres. Et nous avons une assemblée générale en début d'année ouverte à tous.
D'accord. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous parler un petit peu de quelques-unes de vos initiatives que vous avez déjà menées depuis le début de l'année ou depuis l'année dernière ?
Bien sûr. Alors, cette année, nous avons fait de nombreuses campagnes d'affichage que vous avez forcément vues. Une première sur le consentement, qui a notamment été relayée sous forme de flyers en début d'année. Nous avons également fait des campagnes d'affichage sur la santé sexuelle, avec de nombreuses informations de santé pour l'information des étudiants comme des enseignants. Nous avons aussi fait des affiches de conseils aux hommes universitaires et une affiche sur les relations abusives qui a eu beaucoup d'impact médiatique dans la mesure où elle a été relayée par Gradia, Mademoiselle et d'autres magazines féminins.
D'accord.
Nous organisons également des ateliers, c'est-à-dire des petits groupes de réflexion ou de lecture. Le dernier en date était un atelier sur les femmes en politique avec l'intervention de la 17e adjointe au maire de Lyon, responsable du droit des femmes, qui nous a parlé de son engagement. Nous avons également traité du sujet sensible de la maternité. Nous avons aussi un atelier de lecture beauté fatale, auquel beaucoup ont participé sur l'apparence du corps féminin. Voilà, nous avons eu de nombreux ateliers. Et enfin, notre rôle est vraiment d'instaurer un dialogue de fond avec les référentes égalité, qui sont Christine Détré et Sophie Fermiguier.
D'accord.
Et l'administration.
D'accord. Et est-ce que vous avez rencontré un petit peu d'opposition avec vos initiatives, ou est-ce que finalement ça se déroule bien?
Dans l'ensemble, nous rencontrons quand même une bienveillance et un soutien qui sont assez agréables de la part des étudiants et des enseignants. Mais par exemple, sur la campagne d'affichage à propos de la santé sexuelle, nous avons un petit peu d'opposition avec des affiches arrachées, notamment sur le site Descartes.
D'accord. Du coup, vous avez encore d'autres initiatives prévues pour la fin de l'année ?
Pas pour l'instant. Nous avons des idées d'ateliers qui seront plutôt pour l'année prochaine.
D'accord. Et alors maintenant, on va peut-être passer à la deuxième partie de l'interview qui concerne le harcèlement à l'école. Donc, vous organisez des ateliers dans une démarche de réflexion générale sur le féminisme et ses enjeux, mais est-ce que vous avez également aussi une présence un peu plus politique, concrète à l'école ? Vous faites partie du dispositif d'accompagnement des victimes de violences. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus concrètement ? Par exemple, nous présenter et nous expliquer les relais et les démarches à suivre à l'école si jamais on est harcelé, voilà, les recours dont on dispose.
Oui, bien sûr. Alors nous, on se tient vraiment à la lettre de cadrage des universités qui a émané du gouvernement en décembre 2016 et qui visait à promouvoir dans toutes les universités la lutte contre le sexisme et les discriminations en milieu universitaire. Donc à l'ENS, ce sont les référentes égalité, dont j'ai déjà parlé, qui ont ce rôle, ainsi que nous-mêmes qui servons vraiment de relais. Et nous avons presque fini d'élaborer un formulaire accompagné d'une campagne d'affichage expliquant un petit peu comment ça marche, afin de rapporter, avec possibilité d'anonymat bien sûr, les comportements et actes sexistes à l'ENS.
D'accord. Et est-ce qu'on vous a déjà saisi pour de tels cas à l'école, enfin, sans vraiment entrer dans les détails particuliers, mais est-ce que, enfin, on a toujours l'impression en fait que ça arrive ailleurs et pas forcément autour de nous, et est-ce que
ça arrive à l'ENS.
Ça arrive à l'ENS, d'accord.
Ça arrive à l'ENS.
D'accord, même à l'ENS, on pourrait penser que pas forcément à un moment ce type de problème-là, mais d'ailleurs, je comptais enchaîner sur une petite parenthèse. Je ne sais pas si tu connais le Tumblr Paye ta fac.
Bien sûr.
Voilà, je pense que vous relayez pas mal d'initiatives, mais c'est un Tumblr qui relaye en fait tous les propos sexistes et discriminatoires dont les femmes ont pu, dont certaines étudiantes ont pu pâtir en fait au cours de leur cours et de leur vie universitaire. Donc là, je vais en relayer quelques-uns pour vous donner un petit peu une idée de ce Tumblr. Donc par exemple, là, je cite. Un professeur de deuxième année de classe préparatoire dans le Rhône qui a dit à ses élèves, à une de ses élèves, dis donc, tu es au point niveau sexe aujourd'hui, je suis sûre que si tu t'assois là, j'ouvre la porte et tout le monde te passe dessus. Voilà. Maintenant, un prof de chimie, en fait, à la fin d'un TP, qui, alors que les élèves étaient en retard, pardon, et qu'une de ses élèves a commencé à remplir la feuille de résultats pendant que son binôme finissait de laver le matériel qu'ils avaient utilisé. Et il lui a dit « Normalement, dans les binômes filles-garçons, seule la fille fait la vaisselle à la fin du TP, donc tu te lèves et tu vas la faire. » Voilà. Ça donne un petit peu une idée du sexisme que les étudiantes, auquel les étudiantes sont parfois confrontées. Un autre petit extrait, par exemple, qui nous vient de l'école polytechnique, en fait, où l'encadrant militaire se justifiait d'avoir mis un 6 sur 20 à une élève en note de formation humaine et militaire, parce qu'elle avait causé beaucoup de travail à l'encadrement militaire, parce qu'elle avait rapporté à la hiérarchie, selon la procédure en place, des agressions sexuelles faites par des étudiants et des encadrants militaires. Donc l'encadrant lui a répliqué les constitutions comme les jolies femmes. L'encadrant lui a mis un 6 sur 20, en fait. Il lui a dit « Je t'ai mis cette note parce que tu as causé beaucoup de travail à la hiérarchie militaire et c'était désagréable. » Voilà, à Polytechnique. Dans l'université de Gironde, à Bordeaux, en fait, dans un cours de droit constitutionnel, le prof a dit « Les constitutions, comme les jolies femmes, sont faites pour être violées. » Donc ça, c'était en introduction d'un cours de droit constitutionnel. Et maintenant, dans une classe d'hypocagne à Brest, en 1993, un prof a dit à son élève, alors qu'elle mâchonnait un crayon en classe, il lui a dit « Mademoiselle, enlevez ce crayon de votre bouche, cela donne envie d'y mettre autre chose », donc devant tout le monde. Et voilà. Et enfin, dans un cours d'agrégation de SVT face à une classe mixte, en fait, le professeur a dit lors d'un TP « Les coquillages ormeaux, c'est comme les femmes, il faut les battre pour qu'elles s'attendrissent ». Voilà. Donc le sexisme est partout, même à l'ENS, même à l'université. Et les associations féministes comme les Salopettes ont leur utilité. J'aimerais enchaîner maintenant sur la troisième petite partie de l'interview, qui est consacrée au sexisme dans la recherche. Donc, Mathias, est-ce que tu prends un peu le relais ?
Bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du sexisme dans le domaine de la recherche, peut-être avec quelques chiffres ? Et en lien avec ça, est-ce que vous avez le sentiment de lancer une sorte de pavé dans la mare à l'ENS en particulier?
Alors, on avait fait une affiche de conseil aux hommes universitaires qui regroupait un petit peu ces chiffres et qu'on peut retrouver sur le blog des Salopettes, lessalopettes.wordpress.com, il me semble.
Oui.
On voit par exemple que plus on monte dans la hiérarchie universitaire, donc avec des chiffres vraiment très très, très, très empiriques, moins les femmes représentent une part importante de l'effectif global. Alors, on a quand même 57% des étudiants en licence et master qui sont des étudiantes. On passe sous la barre des 50% dès le nombre de doctorants, avec 48%. Et on passe sous la barre des 1/3, avec 31% en HDR, c'est-à-dire habilitation à diriger des recherches, pour tomber à deux chiffres absolument incompréhensibles au vu des 57% initiaux,
ouais.
Tomber à 22% des professeurs d'université et 15% des présidents et présidentes d'université. Alors après, est-ce qu'on a l'impression de lancer un pavé dans la mare à l'ENS en particulier ? Je ne pense pas plus qu'ailleurs, mais ces chiffres sont toujours dérangeants, évidemment.
D'accord.
Oui, et vous dénoncez à la fois le sexisme en termes de contenu scientifique et en même temps du point de vue des pratiques du monde académique qu'on comprend quand même très androcentré. Et vous avez mené en début d'année un atelier de réflexion sur les violences sexuelles dans les contenus enseignés en littérature et plus largement dans ce qu'on peut appeler la culture légitime. Est-ce que c'est difficile de questionner ce qu'on appelle en sociologie la culture légitime à travers la culture du viol dans ce cas-là, notamment à l'ENS?
Oui, beaucoup de monde nie l'existence de cette culture du viol, et y compris ici malheureusement. Cette négation se fait à de nombreux niveaux, et on le note notamment par le discours méritocratique qui est tenu par certains et qui nous explique que tout est une question simplement de mérite et de contenu objectif des œuvres en tant qu'œuvres littéraires canoniques. Et c'est vrai que dans le cadre de notre atelier sur le traitement des violences sexuelles dans les œuvres littéraires, on s'est vraiment rendu compte de ça, avec des gens qui niaient totalement des cas de viol en littérature reconnus comme tels et qui expliquaient que ce n'était pas forcément un viol au sens où on l'entendait, alors que c'en était. Donc on a vraiment cette résistance qui est étonnante de la part de gens qui sont censés, qui sont censés être à l'ENS, donc qui sont censés réfléchir à ces sujets, mais pourtant on a vraiment cette négation et on l'a noté. Vraiment.
D'accord. Et est-ce que c'est difficile de combattre les discriminations et la domination masculine en fait dans le domaine académique, qui est a priori en fait un domaine où l'égalité des sexes fait relativement consensus dans les discours? Par rapport à d'autres champs professionnels, du moins, mais où les pratiques ne suivent pas forcément.
C'est comme je disais, c'est vraiment ce discours méritocratique qui est difficile à entendre et qui masque les problèmes, notamment les chiffres que j'ai cités, qui sont quand même facilement accessibles. Et, par exemple, nous avons relayé aussi... Donc ça prend forme dans les corpus même d'études. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, relayé une pétition que je vous invite à signer sur notre page Facebook pour dénoncer un corpus d'auteurs, cette année, exclusivement masculin, à l'agrégation de lettres. Donc, vraiment, on a beau essayer de s'échiner à expliquer qu'il faut plus de représentation, que ces chiffres ne sont pas normaux, et on a néanmoins toujours cette idée que... qu'on brasse un peu du vent quand on est face à ce genre d'attitude, mais vraiment, c'est difficile de se battre contre ça. C'est difficile.
D'accord. Et est-ce qu'il y a peut-être des problèmes que vous souhaiteriez soulever maintenant en chantier, ou est-ce que... Enfin, tu nous en as déjà parlé un petit peu au début.
Oui. Non, on va juste essayer de mener à bien ce qui a été entrepris cette année, notamment le formulaire. Et on a encore plein d'idées d'ateliers, mais ça, ce sera plutôt pour l'année prochaine, je pense.
D'accord. Merci beaucoup pour ta participation et pour tous ces éclairages fort instructifs, Anna. Donc après cette discussion grave, retour à un peu plus de légèreté avec le Journal de la Culture présenté par Clémence et Marie. Rebonjour à vous deux.